Vous écoutez, on lit pour vous.
Savoir dire non au Glencore de ce monde. Un texte de Yvan Tunchurian et Jérôme Gosselin, TAP. Les deux sont professeurs et membres de l'Institut d'éthique appliquée. Texte publié dans Le Devoir du 4 mai. La fonderie Horn est revenue dans l'actualité ces dernières semaines. Plus d'une centaine de médecins de la région de l'Abitibi-Témiscamingue demandant à la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, de renoncer aux assouplissements consentis par François Legault. Sa société mère, Glencore, avait fait savoir début février qu'elle allait suspendre ses investissements pour réduire les émissions polluantes si elle n'obtenait pas une entente avec le gouvernement du Québec. Elle n'a pas hésité à menacer de fermer le site de Rouyn-Noranda quelques jours auparavant. En 2023, la fonderie avait déjà obtenu une autorisation ministérielle de continuer de polluer au-delà du seuil fixé par la réglementation environnementale de 3 nanogrammes par mètre cube. Elle devait également travailler sur un plan d'action afin d'atteindre la cible des 15 nanogrammes par mètre cube en 2027. Cédant à la pression, à la fin mars, le gouvernement Legault avait repoussé l'exigence d'atteindre cette cible à 2030, en plus de prolonger l'autorisation ministérielle jusqu'à 2033. La position dans laquelle se trouve la population de Rouyn-Noranda n'a rien de simple ni d'anecdotique. Il s'agit en fait d'une illustration parfaite des déchirements et des iniquités qui accompagnent l'application des réglementations environnementales. Bien que nécessaires, les interventions étatiques placent forcément ceux qui sont déjà victimes d'injustices environnementales, parenthèse, par une exposition accrue à des polluants, fin de parenthèse, dans une situation de précarité économique, parenthèse, compte tenu de la dépendance régionale à des industries polluantes, fin de parenthèse. Dans ce contexte, la stratégie de Glencore s'apparente à un chantage inique. Jouant sur la peur et la vulnérabilité de la ville de Rouyn-Noranda et des ouvriers de la fonderie, la multinationale use du pouvoir quasi féodal que détiennent les grandes entreprises vis-à-vis des États en pratiquant le chantage à la délocalisation. Comme tant d'autres, Glencore se sert de son rapport de force pour imposer sa volonté. Qu'on ne s'y trompe pas, elle arrive à imposer sa vision du monde. Elle a obtenu l'attention du gouvernement, qui s'est empressé de réagir. Elle a obtenu le droit de continuer de polluer. Elle a obtenu de ne pas investir de l'argent pour moderniser ses installations afin d'atteindre une cible 5 fois plus élevée. À ces gains immédiats s'ajoutent certains plus anciens. La création d'une zone tampon à laquelle participe financièrement le gouvernement, l'octroi régulier de subventions gouvernementales et de la ville, le non-respect du seuil de 3 nanogrammes par mètre cube imposé par la loi. Et ajoutons qu'à ce jour, les concessions de Glencore sont minimes. On ne doit alors pas s'étonner du déchirement et du sentiment d'impuissance qui afflige la population de Rouyn-Noranda qui doit finalement choisir entre la peste et le choléra. Dans son communiqué du 5 février dernier, le gouvernement du Québec appelait la ville de Rouyn-Noranda, guillemets, comme gouvernement de proximité, fin des guillemets, à, citation, se prononcer sur l'acceptabilité sociale, fin de citation, d'une prolongation du seuil intermédiaire d'émission. Quelques jours plus tard, le conseil municipal s'est rangé en faveur de la proposition du gouvernement, accordant, guillemets, 7 années de prévisibilité réglementaire, fin des guillemets. Or, cette décision, prise à huis clos, est décriée par plusieurs citoyens. Dans les circonstances, peut-on raisonnablement parler d'un quelconque compromis socialement acceptable? La situation met en lumière, bien au contraire, le flou artistique entourant l'acceptabilité sociale dans les débats publics québécois. Même si elle est systématiquement présentée comme une norme décisionnelle, aucun seuil clair ne peut être établi tant par le gouvernement que par la littérature scientifique. en lui demandant de se prononcer sur l'acceptabilité sociale de sa mesure, le gouvernement du Québec n'a fait rien d'autre que de lancer le conseil municipal dans une quête sans issue. Comme le soulignait avec raison l'équipe des communications de la municipalité, citation, « Comment la ville pouvait-elle de façon sérieuse mesurer l'acceptabilité sociale de la proposition qu'il avait mise sur la table ?» Fin de citation. En effet, qui sont des et comment? Quel poids accorder à chaque catégorie de personnes concernées? Mais surtout, quel niveau d'adhésion visé? Toutes ces ondes d'ombre laissent l'évaluation de l'acceptabilité sociale à la pleine discrétion de certains acteurs et maintiennent inchangés les rapports de force qui traversent les communautés. Dans ce genre de dossier, au lieu de tenter de mesurer l'acceptabilité sociale, il faut plutôt chercher à corriger ces rapports de force problématiques. Cela requiert la création de contre-pouvoirs, mais aussi l'aménagement d'un espace institutionnel où peuvent véritablement s'exprimer les résistances à l'égard de mesures aussi controversées. Il faut aussi trouver des solutions concrètes aux préoccupations, par ailleurs légitimes, des travailleurs de l'entreprise. Dans son mémoire déposé en 2022, Émilie Lessard-Terrien appelait à la fin de la complaisance envers Glencore, mais surtout, citation, à la prise en main collective de notre devenir. Fin de citation. Dans son livre vert sur l'acceptabilité sociale, le gouvernement du Québec rappelait qu'un processus de consultation doit, citation, se traduire par le refus d'une communauté. Fin de citation. À cet égard, l'ancienne députée de Québec solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue a raison. Pour qu'une telle possibilité soit effective, il faut se donner collectivement les leviers et les ressources pour pouvoir dire non aux multinationales comme Glencore. Fait de ce texte titré « Savoir dire non aux Glencore de ce monde », signé Yvan Chouturian et Jérôme Gosselin-Tap, publié dans Le Devoir du 4 mai 2026, sous le titre « De la suite dans les idées, dire non aux puissants ».
Et si les humains éradiquaient tous les moustiques? Un texte de Daniel Lawler de l'agence France Presse paru le 12 mai 2026 dans Le Devoir. Les animaux les plus meurtriers ne sont pas les lions, les araignées ou les serpents, mais les minuscules moustiques qui sucent notre sang, nous causent des démangeaisons et nous transmettent des maladies au point que leur éradication fait parfois débat. Les moustiques tuent environ 760 000 humains chaque année, selon des données officielles. Car ils sont les vecteurs d'environ 17 % des maladies infectieuses, comme la malaria, la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya et le zika. Avec le réchauffement climatique, ces insectes gagnent du terrain dans de nouvelles parties de la Terre lors d'étés à rallonge, faisant craindre de futures crises sanitaires. L'humanité ne pourrait-elle pas éradiquer les moustiques meurtriers? Et si oui, quel serait l'impact sur l'environnement? D'abord, pas besoin d'éradiquer tous les moustiques. Sur quelques 3500 espèces connues, seules une centaine piquent les humains et seules 5 sont responsables d'environ 95% des infections chez l'homme, rappelle à l'AFP la biologiste Hilary Ranson, Liverpool School of Tropical Medicine. Les 5 espèces vectrices de maladies ont évolué pour être étroitement liées à l'humain, notamment en se nourrissant et se reproduisant à proximité, explique-t-elle. Leur éradication, tolérable, vu les ravages provoqués selon elle, n'aurait pas d'impact majeur sur l'écosystème dans son ensemble et des moustiques génétiquement similaires mais moins mortels occuperaient rapidement cette niche écologique. Débat éthique. Globalement d'accord, l'entomologiste Dan Peach, Université de Géorgie, États-Unis, juge néanmoins nécessaire d'avoir plus d'informations pour comparer l'éradication à d'autres options. Nous n'en savons pas assez sur l'écologie de la plupart des espèces de moustiques pour nous prononcer avec certitude dans un sens ou dans l'autre. Les moustiques transfèrent effectivement des nutriments depuis leurs habitats larvaires aquatiques vers d'autres zones et servent de nourriture à des insectes, poissons et autres, expose-t-il. Ils pollinisent aussi les plantes, mais ce phénomène n'est pas bien compris et peut varier selon les espèces. Le débat éthique sur une élimination d'espèces vivantes est légitime, selon Hilary Ranson, tout en soulignant que les humains en exterminent déjà beaucoup involontairement. Pour éradiquer des moustiques, l'une des biotechnologies en vue est le forçage génétique, qui consiste à modifier un chromosome pour transmettre un trait à tous ses descendants. Des scientifiques ayant modifié génétiquement des femelles du moustique Anopheles gambier, vecteur du paludisme, pour les rendre stériles, ont ainsi éradiqué une population en quelques générations en laboratoire. L'initiative Target Malaria, financée par la fondation états-unienne Gates, prévoit de faire des essais dans un pays touché par le paludisme d'ici à 2030. Elle a connu un revers au Burkina Faso où la junte au pouvoir a interrompu l'an passé un projet impliquant des souches de moustiques génétiquement modifiées mais sans forçage génétique après des critiques dans la société civile et des campagnes de désinformation. Une autre stratégie prometteuse consiste à infecter les moustiques Aedes aegypti avec la bactérie Wolbachia, bloquant la circulation du virus. Cela peut faire chuter leur population ou simplement réduire leur capacité à transmettre la dengue. Pas de solution miracle. Cela soulève une autre question. Avons-nous réellement besoin de tuer ces moustiques? Une étude publiée en 2025 a montré que la libération de moustiques infectés par Wolbachia dans la ville brésilienne de Niterói avait fait chuter de 89% les cas de dengue. Plus de 16 millions de personnes dans 15 pays sont désormais protégées par ces moustiques sans aucune conséquence négative, a vanté l'AFP Scott O'Neill, fondateur du Programme mondial contre les moustiques. Parallèlement, un autre projet de transmission zéro tente d'utiliser le forçage génétique pour empêcher les femelles Anopheles gambier de propager le paludisme. Des recherches en laboratoire publiées dans Nature fin 2025 suggèrent que les scientifiques se rapprochent de cet objectif et un essai sur le terrain devrait démarrer en 2030. Le revers au Burkina Faso a cependant montré que ces projets nécessitent un certain soutien politique ou une adhésion des pays où ils sont expérimentés, dit à l'AFP l'auteur de l'étude, Dixon Wilson Lwetoijera, Institut de santé d'Ifakara en Tanzanie. Plutôt que de miser seulement sur une solution miracle technologique généralement financée par la Fondation Gates, Hillary Rensen plaide pour une solution plus globale contre les arboviroses. Cela impliquerait, selon elle, d'offrir aux populations des pays touchés un meilleur accès au diagnostic, au traitement ou à des vaccins plus efficaces. Mais, selon les ONG, les coupes des pays occidentaux dans l'aide internationale depuis 2025 menacent les progrès dans la lutte contre la plupart des maladies transmises par les moustiques. C'était « Et si les humains éradiquaient tous les moustiques ?» un texte de Daniel Lawler de l'agence France Presse paru le 12 mai 2026 dans Le Devoir.
Un écart qui fluctue avec le temps. Un texte de Léa Carrier, paru le 10 mai 2026 dans la presse. Historiquement, les hommes et les femmes se sont positionnés différemment sur l'axe politique, parfois à gauche, parfois à droite. Retour dans le temps. Avant les années 1970. Il y a 50 ans, le concept d'écart idéologique aurait fait référence à une toute autre réalité. En Occident, les femmes campaient plus à droite que les hommes. Ce que les chercheurs surnomment parfois le traditionnel gender gap s'expliquerait par une plus grande religiosité des femmes qui sont circonscrites au foyer et généralement absentes du marché du travail. Elles étaient beaucoup moins en contact avec la société civile et, si on veut, plus proches de l'Église et du village, explique Vincent Coquebert, journaliste et essayiste français, auteur de l'ouvrage « La guerre de sécession ». De 1970 à 1990. La tendance commence à s'inverser. Les femmes intègrent massivement le marché du travail et les universités. Elles gagnent une plus grande indépendance financière et une autonomie reproductive grâce à la pilule contraceptive. À mesure que les femmes s'émancipent, elles se déplacent vers la gauche. Pendant ce temps, la position idéologique des hommes bouge peu, si bien qu'un nouvel écart idéologique se dessine, les femmes se situent légèrement plus à gauche que leurs semblables masculins. De 1990 à 2010. Après une période de changement rapide, les positions idéologiques restent relativement stables pendant une vingtaine d'années. Ce qu'on observe, c'est une convergence des valeurs et des affects entre les hommes et les femmes, tout simplement parce qu'ils cohabitent davantage en société, souligne M. Coquebert. De 2010 à aujourd'hui. Pour beaucoup, l'élection de Donald Trump a été un électrochoc. Ce qu'on ignorait, c'est qu'un virage à droite s'opérait déjà sous la surface. Vers la fin des années 2010, on a remarqué qu'il y avait toute une partie des jeunes hommes qui devenaient plus conservateurs que leur père ou leur grand-père, observe Vincent Coquebert. L'essayiste en situe l'origine à la crise économique de 2008, qui a marqué une rupture de confiance envers les institutions et entraîné un mouvement populiste en Occident. Ce désarroi symbolique et économique va peu à peu se transformer en désarroi identitaire, résume-t-il, soulignant le rôle des réseaux sociaux dans la droitisation des jeunes hommes. Et depuis la pandémie, l'éloignement idéologique semble s'accélérer entre les genres. Les jeunes de droite et de gauche, vers une nouvelle guerre des sexes. Historiquement, hommes et femmes se sont positionnés différemment sur l'axe politique, parfois à gauche, parfois à droite. Mais depuis quelques années au Québec, une tendance se dégage. Les jeunes hommes virent à droite, tandis que les jeunes femmes sont davantage attachées aux valeurs de la gauche. Nous nous sommes penchés sur ce nouveau clivage idéologique des genres. Oubliez la guerre des générations, le discours ambiant opposant les jeunes aux vieux, les woke aux boomers. Au Québec, le vrai choc des valeurs se joue entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Tandis qu'ils prennent un virage à droite, elles restent campées à gauche. Conséquence, les jeunes affichent le plus grand écart idéologique entre les genres de tous les groupes d'âge. C'est ce que confirment de nouvelles données de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Obtenues par la presse, elles montrent que les jeunes hommes présentent des attitudes plus conservatrices sur des sujets comme le féminisme, l'immigration et l'identité de genre. Si de nombreux signes laissaient présager ce clivage, jamais une étude n'avait encore sérieusement mesuré le phénomène au Québec. La province n'échappe donc pas à la tendance mondiale. Aux États-Unis, en Allemagne ou encore en Corée du Sud, les études montrent aussi que les jeunes femmes et les jeunes hommes s'éloignent sur l'axe politique. Dans son récent ouvrage « La guerre de sécession », le journaliste et essayiste français Vincent Coquebert parle même d'une désynchronisation des valeurs entre les deux groupes. Si bien qu'aujourd'hui, le principal point de tension se situe moins entre les générations qu'entre les genres, argue-t-il. Assistons-nous à une nouvelle guerre des sexes? Des divergences politiques. L'expression fait sourire le co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, David Morin. Elle est certes un peu tapageuse, mais l'étude peut effectivement donner cette impression. Les données ont été récoltées à partir de 6850 personnes au Canada, dont 2700 au Québec, dans le cadre d'une importante enquête populationnelle. Le but était initialement de mesurer l'adhésion de la population aux théories complotistes plusieurs années après la pandémie. Mais les chercheurs ont eu l'idée de questionner aussi les participants sur différents sujets de société clivants, comme le féminisme, l'identité de genre et l'immigration. En analysant les résultats, une tendance a retenu leur attention. Ce qui nous a particulièrement marqué, c'est, oui, une certaine montée du conservatisme chez les jeunes hommes, mais surtout, c'est l'écart entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, rapporte David Morin. Chez les 18 à 35 ans, plus d'un homme sur quatre, 26 % croit que le féminisme n'a plus sa raison d'être, contre moins d'une fille sur 10, 7 %. L'écart de 19 points de pourcentage entre les deux groupes de jeunes adultes est le plus important de toutes les tranches d'âge. Il est de 16 points chez les 36 à 54 ans et de 10 points chez les 55 ans et plus. Autre donnée frappante. Près de 12 % des jeunes hommes croient que toutes les personnes issues de l'immigration devraient être renvoyées dans leur pays d'origine, contre seulement 5 % des jeunes femmes. Chez les autres générations, le taux est sensiblement le même, peu importe le genre, autour de 9 % chez les 36 à 54 ans et de 6 % chez les 55 ans et plus. Selon l'échelle utilisée par les chercheurs pour mesurer le niveau de conservatisme, 37 % des jeunes hommes seraient modérément ou très conservateurs, le taux le plus élevé parmi tous les groupes d'âge. Mais cela veut aussi dire qu'une majorité de jeunes hommes logeraient encore à gauche ou au centre. Vous écoutez Un écart qui fluctue avec le temps, un texte de Léa Carrier, paru le 10 mai 2026 dans la presse. Des facteurs multiples. Quelles sont les causes de cet éloignement? Ici comme ailleurs, les chercheurs travaillent à y répondre. Est-ce que ce sont les jeunes hommes qui, s'opposant aux mouvements sociaux progressistes, embrassent davantage la droite? Ou est-ce que ce sont les jeunes femmes qui, craignant de perdre leurs acquis, se réfugient à gauche? C'est difficile de dire qui réagit à qui. J'ai vraiment l'impression qu'ils s'influencent mutuellement, répond David Morin. Il ajoute cependant qu'il n'est pas nouveau de voir les jeunes hommes se situer davantage aux extrémités du spectre politique, que ce soit très à droite ou très à gauche. Selon les époques, les hommes comme les femmes se sont d'ailleurs positionnés différemment sur cet axe. De son côté, l'essayiste Vincent Cockbert note qu'il existe actuellement un récit répandu selon lequel les hommes seraient les perdants de la modernité. Plutôt que d'interroger les causes structurelles de ce déclassement, certains se sont tournés vers une explication totalement simpliste en disant que l'émancipation féminine serait la cause de leur malheur, observait-il. Mais il attribue aussi le phénomène à quelque chose de plus profond. Aujourd'hui, on a l'impression que la modernité n'a pas rempli ses deux grandes promesses, dit-il, qui étaient l'émancipation pour tous et le progrès continuel. Face à cette désillusion, les individus se replient sur ce qu'il leur reste, leur identité. Et c'est une identité qui devient non plus positive, mais de plus en plus défensive, comme ces jeunes femmes qui se braquent contre la montée du conservatisme. On se sent en tension, on cherche les responsables. Ça a longtemps été les étrangers, les élites, les générations précédentes. Aujourd'hui, ça s'incarne de plus en plus dans l'intime, poursuit M. Cockbert. Pas de solution miracle. Selon les experts interrogés, cette polarisation est appelée à s'aggraver. Directrice du pôle média de la chaîne UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, Marie-Ève Carignan en voit déjà les conséquences. Dans certaines veilles qu'on fait en ligne, dit-elle, on voit de jeunes femmes qui ne veulent plus nécessairement rencontrer d'hommes parce qu'elles sont craintives. Ça reste marginal, mais ça crée quand même des préoccupations. David Morin partage ses inquiétudes. Je crains une forme de rupture de la conversation politique et sociale sur des débats de société, dit-il. Comment l'empêcher? Hélas, il n'y a pas de solution miracle. Pour rétrécir le fossé idéologique, il faut favoriser la socialisation des jeunes, qui a été grandement appauvrie par les réseaux sociaux, estime Vincent Cockbert. Encore plus difficile, il faut redonner espoir aux jeunes en l'avenir. Tant qu'au niveau politique, on n'arrivera pas à donner une vision positive et désirable du futur, il n'y aura aucune raison d'encourager la collaboration entre jeunes hommes et jeunes femmes. C'était Un écart qui fluctue avec le temps. Un texte de Léa Carrier, paru le 10 mai 2026 dans la presse.